Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors le clivage structurant la vie politique dans les démocraties occidentales n'opposerait plus la droite et la gauche, mais les partisans de la version libérale de la démocratie à ceux qui retiennent sa mouture illibérale.
Et puisque nous approchons des élections au Parlement européen, cette opposition recouperait l'antagonisme qui dresse face aux défenseurs de l'intégration européenne les diverses familles du souverainisme. À première vue, c'est le fond du message macronien face à cette échéance électorale. Le choix, nous répète le président de la République, est entre moi et Viktor Orban, entre moi et Matteo Salvini. Je suis le premier responsable politique à avoir fait refluer la vague populiste dans mon pays, je suis capable de la faire refluer également en Europe. Et la référence un peu facile aux années 30 et aux nouvelles menaces pesant sur nos démocraties a pour fonction de placer la lutte contre la démocratie illibérale sous l'invocation toujours gratifiante de la lutte antifasciste. En réalité, les choses sont plus compliquées. D'une part, parce que les tenants de la démocratie illibérale, à la différence des fascistes d'autrefois, nient résolument être engagés dans un combat contre la démocratie. Au contraire, ils prétendent la défendre, voire même la restaurer, puisqu'elle aurait été confisquée par des instances n'ayant pas de compte à rendre devant les peuples. D'autre part, parce qu'en introduisant dans le débat politique la notion nouvelle de souveraineté européenne, Macron reprend au bon un thème souverainiste en le transformant. Il n'est pas l'adversaire de la souveraineté populaire, il veut la partager entre un niveau purement national et puis l'échelon supérieur, celui d'un peuple européen en voie de constitution. Et ce faisant, il échappe au libéralisme. Car les libéraux, partisans déclarés de la souveraineté nationale, ils l'ont défendu les armes à la main lors du printemps des peuples en 1848, se sont toujours secrètement méfiés de la souveraineté populaire. Pour deux raisons, dont on oublie volontiers la seconde. D'abord, c'est la première, c'est vrai, parce qu'ils redoutent les enthousiasmes populaires, le fanatisme des foules, surtout lorsqu'ils sont attisés par des leaders charismatiques. Les totalitarismes du XXe siècle ont montré que ces craintes n'étaient pas infondées. D'où la persistante préférence des libéraux pour le suffrage censitaire et pour les modes de scrutin indirect, l'élection des responsables de l'action publique par des collèges d'électeurs, des assemblées de notables réputées raisonnables. En France, souvenons-nous que l'élection du président de la République par le peuple, voulue par le général de Gaulle en 1962, a été dénoncée comme populiste et bonapartiste par les libéraux de l'époque, qu'ils soient de droite ou de gauche.
Mais cette méfiance, Brice, envers la souveraineté populaire, elle est également dictée par un autre motif, lequel ?
Oui, je le disais, il y a un deuxième motif. C'est la crainte que l'autorité d'un gouvernement légitimé par la volonté du peuple ne se reconnaisse aucune limite. Benjamin Constant, l'un des plus fameux d'entre les libéraux, mettait en garde au début du XIXe siècle, je cite, « On semblait se dire que si la souveraineté des grands rois était si puissante, si terrible, la souveraineté d'un grand peuple devait être bien autre chose encore. » Alors pour parer au risque du despotisme populaire, dont la Révolution française avait donné une première version sous la Terreur, les libéraux réclamaient non seulement qu'on limite l'extension du pouvoir, mais qu'on respecte scrupuleusement sa division entre exécutif, législatif et judiciaire. Les pères fondateurs de la République des États-Unis, eux-mêmes libéraux, partageaient ces inquiétudes. James Madison, en particulier, insista pour éviter toute forme de démocratie plébiscitaire. D'où le fédéralisme, destiné bien sûr à affaiblir le pouvoir central de Washington sur le pays, la création de la Cour suprême et l'existence du Sénat, dont les membres, à l'origine, étaient élus par les parlements des États et non pas directement par les électeurs. Mais cette méfiance n'a plus lieu d'être, nous disent les défenseurs de la démocratie non libérale. Frank Furedi, un intéressant sociologue britannique né en Hongrie, résume assez bien leurs arguments dans un long essai publié dans The American Interest. Ce que les libéraux et progressistes reprochent aux populistes, écrit-il, c'est d'abord leur popularité. Et ils devraient plutôt s'interroger sur les causes de leur propre impopularité. En réalité, écrit Furedi, le discours antipopuliste comporte des dimensions cachées, à savoir une critique implicite de la souveraineté populaire et de la prise de décision démocratique, une extrême méfiance envers les opinions majoritaires, un élitisme qui, dans des cas extrêmes, n'hésite plus à apparaître comme tel. Et il cite un essai publié par James Straub dans Foreign Policy, un essai provocateur puisque son titre était, je le cite, « It's time for the elites to rise against the ignorant masses ». C'est le temps est venu pour les élites de se dresser contre les masses ignorantes. Et le combat politique de notre temps, écrit ce James Strobe, qui est un politologue américain, n'oppose plus la droite et la gauche, mais je cite, « les saints d'esprit aux colériques stupides ». Les masses ignorantes, ajoute-t-il, doivent être rééduquées. Quel programme!